Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelle est l'opportunité d'avoir une loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie en République démocratique du Congo? Nous avons en ligne l'honorable Egari Siakata, élu de Kwamout et auteur d'une proposition de loi contre le racisme, le tribalisme et la xénophobie. Honorable Egari Siakata, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants. Mesdames et messieurs, des questions et préoccupations par rapport à cette proposition de loi. Appelez au 081-890-6394 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Que faire pour prévenir les incendies à répétition en République démocratique du Congo? Alors, il y a de plus en plus de cas d'incendies à travers le pays. Le dernier en date est l'incendie du lycée Mwanga. Des Colésie qui a plongé de nombreux internautes en émoi. On a vu des vidéos circuler montrant les enfants en train de sauter du premier étage du bâtiment scolaire, pris des paniques, etc. Alors, comment lutter efficacement contre les incendies? On en parle dans la deuxième partie de cette émission à partir des 11h05 de Kinshasa. Alain Goy assure la mise en onde. Marcel Ngoumoumbala Keba, la coordination Tati Mampoukou, réalise cette émission que présente Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Bien, la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie en RDC est inscrite à l'ordre du jour au cours de cette session parlementaire à l'Assemblée nationale. Selon plusieurs observateurs, cette proposition, une fois adoptée par les deux chambres du Parlement et promulguée par les chefs de l'État, va réduire sensiblement les conflits interethniques enregistrés dans plusieurs parties du pays. Il est important de signaler que le tribalisme, les discours de haine sont devenus fréquents à travers le pays et surtout à l'approche des élections. Alors est-il important, opportun aujourd'hui d'avoir une loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie? On en parle avec notre invité, l'honorable Egari Siakata, député national de Bagata, élu de Bagata et auteur de la proposition de loi. Honorable Egari Siakata, encore une fois bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Alors, la grande question que l'on se pose est de savoir, est-ce qu'il est opportun aujourd'hui d'avoir une loi contre le tribalisme en RDC?
Oui, pour moi, comme je l'ai toujours dit, il est opportun, d'ailleurs plus qu'opportun, parce que, comme vous savez, on s'approche des élections. Une loi contre le tribalisme et la xénophobie, voire le racisme, est une proposition très importante parce que vous-même vous savez que toutes les autorités exécutives en parlent, partant du président de la République, la plus haute autorité de la République, en passant par le Premier ministre ainsi que toutes les autres autorités de la République en font allusion. Ce qui fait que c'est plus qu'opportun, surtout au regard du fait qu'on s'approche des joutes électorales.
Bien, alors pouvez-vous nous aider à comprendre ces concepts? C'est quoi le tribalisme? C'est quoi le racisme? C'est quoi la xénophobie?
Alors, pour dire de manière brève, nous on considère le tribalisme comme étant un phénomène qui tend à survaloriser son groupe et à rejeter d'autres groupes. Donc le fait de considérer que mon groupe ethnique, mon groupe clanique est supérieur aux autres et à rejeter automatiquement celle des autres constitue ce que nous appelons le tribalisme. Le racisme, comme on le sait, le racisme c'est au regard de la race. On fait du racisme lorsque l'on considère que telle race est inférieure ou supérieure à telle autre, que l'on dirait par exemple au stade actuel que le métissé serait différent de Congolais, enfin que le Congolais métissé serait différent de Congolais tout à fait noirs, ou que les uns et les autres seraient différents de ceux qui ont la couleur blanche ou jaune comme on veut. Ça c'est du racisme. Donc on tient compte du faciès, on tient compte de la couleur de la peau, on tient compte de tous ces aspects qui ne dépendent même pas de la personne qui portent la dite couleur ou les dits faciès. Et la xénophobie, c'est le fait de ne pas aimer l'autre, je veux dire, en posant plusieurs mots, plusieurs concepts, notamment
surtout de ne pas aimer les étrangers.
De ne pas aimer non seulement les étrangers, de ne pas aimer autrui en quelque sorte. Ici au Congo, quand nous parlons de xénophobie, nous ne visons pas que les étrangers. Nous visons d'abord l'amour entre nous-mêmes. C'est en fait c'est de manière vraiment très très primaire, c'est comme ça que l'on peut définir le toit concept.
Bien. Et pourquoi on a remarqué que souvent c'est à l'approche des élections qu'il y a il y a beaucoup plus de cas des discours de haine, des montées des tribalismes. Qu'est-ce qui explique cela, honorable Gary?
Alors pour moi, j'explique cela par la manipulation qu'en font les politiciens, les élites politiques. Comme vous savez, en 1960, il y avait eu une manipulation politique de la part de ceux qui étaient considérés comme étant élites, de ramener tout vers eux, vers leurs intérêts égoïstes, et de manipuler les peuples à cet effet. Donc, aux approches des élections, c'est que l'élite politique s'approprie sa tribu, s'approprie son camp, s'approprie sa province, et fait croire que c'est pour son intérêt. Non, c'est pour l'intérêt de cette population, de cette tribu, de cette province, de ce coin, qu'ils parlent en leur nom, de sorte que les autres qui disent le contraire doivent être mis au banc de personnes à accuser ou des personnes sur qui on doit poser des actes qui sont contraires à la loi. Donc pour moi, l'approche des élections est une démarche égoïste des politiciens, égoïste des élites intellectuelles. Ce sont eux qui font exacerber la situation de tribalisme et des xénophobies.
Bien. Donc, c'est pendant l'approche des élections, il semble que c'est beaucoup plus les hommes politiques à la recherche de... parce qu'ils veulent asseoir leur base, leur popularité, alors ils recourent à ces genres de situations pour exclure
oui,
l'autre et se faire élire.
Oui, c'est exactement ça. C'est pourquoi j'ai toujours considéré que c'est un mal social. Regardez, je vais vous illustrer là où le tribalisme est un machin qui est inutile. Si nous sommes au niveau national, donc nous sommes au niveau national, tel qu'on prend parole ici au niveau de Kinshasa, vous allez entendre parler du tribalisme ou de la xénophobie en termes des régions, en termes de provinces. Nous les Bakongo, nous les Baluba, nous les Swahilifones, nous les Bangala. Alors, lorsque vous descendez dans votre province, au chef-lieu de votre province même, les discours changent. La xénophobie et le tribalisme ne deviennent plus une question de l'étendue de la province, devient une question du territoire d'où l'on ressort. Donc, on commence à dire, ah, nous, les gens de tel territoire, on ne nous aime pas. Nous, les gens de tel autre territoire, on ne nous aime pas. Donc, ça change de cap selon les intérêts de ceux qui veulent vous manipuler. Lorsque vous arrivez au niveau du territoire, on ne parle plus de l'intérêt du territoire, on parle maintenant des tribus. Nous sommes de la tribu telle, ceux-là ne nous aiment pas, ainsi de suite. Voyez-vous comme vous suivez ces derniers temps, ce qui se passe à Kisangani, c'est entre des tribus. Mais dites-vous que si c'était à Kinshasa, ils n'allaient pas se comporter comme ça, ils allaient se croire amis et frères. Donc ce qui se passe dans toutes les provinces, ce qui se passe ici à Kwamout, vous ne pouvez pas aller loin. Ce qui se passe ici à Kwamout, si c'est à Kinshasa, les Bateke, les Bayaka et tout ce monde va se dire frères et sœurs parce qu'ils sont du même coin. Ils sont dans le groupe Congo en quelque sorte, si je peux ainsi dire. Donc c'est pour ça que je considère que le tribalisme doit être banni. On doit y mettre de moyens de prévention et surtout également de moyens répressifs pour juguler cela. Sinon, l'unité nationale et la cohésion nationale vont être mal en point.
Maître, on va accueillir un autre intervenant, Maître Gloire Manessa. Il est coordonnateur de l'action citoyenne des luttes contre les discours de haine. Maître Gloire, bonjour.
Monsieur le journaliste, bonjour au prof Gary et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Bien, il y a une proposition de loi dont l'honorable Gary est l'auteur contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. Qu'est-ce que vous pensez de l'opportunité de cette loi aujourd'hui?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, évidemment, il y a une proposition de loi qui trace belle suit également l'évolution de son processus dans le Parlement. Cette proposition de loi, son opportunité, je vais la présenter en deux parties. D'abord, au regard du cadre juridique existant, et ensuite au regard du contexte sociopolitique du pays. par rapport au cadre juridique existant, il apporte que notre pays, depuis un certain moment, n'a pas un texte légal approprié au discours de haine, à la xénophobie, au racisme, par rapport à son ampleur qu'il y a aujourd'hui, à leur ampleur plutôt qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Mmh. Et qu'il y a besoin qu'au niveau interne, que nos lois internes soient adaptées au contexte, au cadre légal international, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais également à la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination. Donc nous devons harmoniser nos lois internes, les adapter aux efforts qui sont menés au niveau international pour lutter contre la xénophobie, pour lutter contre les discours de haine et pour lutter contre les discriminations dans toutes leurs formes. Et puis il y a également ici besoin au niveau national de venir donner un sens spécifique à la lutte contre les discours de haine par rapport à ce que la Constitution prévoit. La Constitution a donné des principes directeurs de façon générale, elle est une loi charnière. Il fallait la spécifier avec des dispositions pratiques qui permettent, par exemple, aux victimes d'avoir accès à la preuve, qui permettent aux victimes d'avoir accès à la justice lorsqu'ils sont devant le discours de haine. La législation interne est faible. Nous n'avons qu'une seule loi, une ordonnance loi de 1966, prise par le président Mobutu, qui incrimine la xénophobie, le tribalisme et Kosovo. Mais l'évolution de l'ampleur plutôt qu'a pris le discours de haine, qu'a pris le racisme et la xénophobie dans les pays, appelle à une loi spécifique. C'est pourquoi, face à ce vide juridique, cette proposition de loi de l'honorable Sakata est une soupape qui vient effectivement mettre en harmonie la loi interne, la Constitution, mais aussi les lois internationales par rapport au discours de haine. Comment elle veut mettre, par exemple, cette proposition de loi propose qu'il y ait une institution, un établissement public qui va être chargé de superviser, d'abord de sensibiliser, de prévenir les discours de haine, et puis d'accompagner les victimes en étant en justice au nom des victimes. Vous voyez, par exemple, que nous vivons dans un pays où l'impunité est la règle. Les efforts qui sont consentis au niveau national sont encouragés pour lutter contre le discours de haine, mais les discours politiques ne suffisent pas. Les victimes sont seules, ils ne savent pas accéder à la preuve parce que souvent ils se retrouvent dans une condition où elles vivent plutôt dans une même ville ou dans un même coin du pays avec son bourreau et que l'accusé ne puisse que témoigner ou aller dire qu'elle a été victime d'un crime qui est déjà difficile. Mais avec cet établissement public que cette proposition de loi propose de payer, nous avons un cadre institutionnel qui permet d'accompagner les victimes afin que la justice soit faite. Parce qu'on ne peut pas parler de l'état des droits sans justice.
Maître Gloire, quels sont les types de discours de haine? Quels sont les types de discours de haine qu'on entend ces derniers temps à travers le pays?
Je vais arriver quand je vais parler du deuxième contexte, du contexte sociopolitique. Je voulais d'abord terminer l'aspect juridique. Je termine par là. Cette proposition de loi renforce les taux de la peine pour les infractions relatives au tribalisme. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a presque pas de peine. Il n'y a presque pas, comme je l'ai dit, des lois spécifiques qui condamnent. Et cette proposition de loi tombe à point nommé. Si je dois rentrer par rapport à l'aspect du contexte sociopolitique du pays, les discours de haine constituent un sérieux problème pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans les débats politiques en général, on assiste au déferlement du tribalisme, des propos, des jargons péjoratifs comme pakistanais, talibans, de père et de mère, tous ces propos-là viennent stigmatiser et déshumaniser certains combattants. Avec la guerre que le pays est en train de vivre dans la partie Est, et aujourd'hui les tensions communautaires à Nituri, dans le Sud Kivu, à Kwamutu et au Katanga, entre nos frères Kafaye et Katangé, nous sommes en train de vivre presque une situation chaotique où il y a des gens qui sont exclus de la communauté. Avec même les élections qui pointent à l'horizon, les propos des politiciens tournent vers des élans tribalistes. Il y a un autre aspect très important du tribalisme qu'on vit dans notre pays, c'est l'accès à l'emploi. La constitution du 18 février 2006, notre constitution du pays, garantit l'accès équitable et sans considération ethnique, tribale ou religieuse des personnes aux emplois. Mais aujourd'hui, le népotisme bat record. Pour accéder à un emploi aujourd'hui, il faut être frère d'eux, il faut appartenir à telle tribu, et les gens sont fiers de se constituer en groupe.
en groupe tribal pour revendiquer tel ou tel autre poste, pour chercher à aller avoir tel ou tel autre poste dans le service public de l'État, ça ne gêne pas. Face à tous ces problèmes-là, il n'existe aucune politique au-delà des discours que nous condamnons, au-delà des discours de condamnation que nous reconnaissons. Il n'existe aucune politique publique qui crée en République démocratique du Congo un état de droit juste et équitable où tout le monde peut vivre démocratiquement. Alors, cette proposition de loi, elle est vraiment encouragée parce qu'elle vient poser des problèmes. Elle dit par exemple que si vous accédez dans un poste public, on ne peut pas retrouver dans votre cabinet deux ou trois, plus de trois personnes qui sont de votre propre tribu. On permet quand même à ces jeunes gens, à ces jeunes, je suis jeune, je parle ici comme jeune, à ces jeunes qui émergent dans les partis politiques, ces jeunes qui sont en train de chercher d'emploi, de se retrouver, de voir leur méritocratie plutôt être promise. On ne doit pas seulement accéder à l'emploi parce qu'on est partisan de tel ou de tel autre parti, ou on est proche de tel ou de tel autre
quoi. D'accord, merci. Merci, maître.
Je dis que cette proposition de loi,
oui,
elle pose le principe d'une justice démocratique dans notre pays.
D'accord.
Elle vient résoudre, elle renforce la cohésion et l'unité nationale qui sont en train de partir en brèche avec tout ce que nous avons comme propos, René et Thibault, à la veille des élections, notamment aujourd'hui.
D'accord. Merci, maître Gloire. Je reviens à vous tout à l'heure.
J'ai compris par là.
Oui.
Elle veut répondre à ce souci de démocratisation. Vous voyez, la seule loi que nous avons dit, j'ai dit, c'est l'ordonnance loi de 1966, pris dans un contexte d'un État dictatorial. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime démocratique. Il faut qu'il y ait une proposition, une loi qui est passée par tous les processus démocratiques pour être adoptée et promulguée.
Merci. Merci, maître Gloire. Oh, je reviens à vous tout à l'heure. On va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour, Roger. Roger Marcel, bonjour. Roger Marcel, vous êtes là? Il n'est plus là. Quelle est l'opportunité d'adopter aujourd'hui une loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie? Je reviens à vous, honorable Gary Sakata. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette proposition de loi? Quelles sont les grandes lignes de cette proposition de loi?
Merci beaucoup. Déjà, je pense que Maître Manessa a vraiment fait un très bon résumé. Mais de manière générale, comme je l'ai dit, la loi vise la cohésion et l'unité nationale. Et les personnes qui sont concernées, c'est les secteurs publics et les secteurs privés. Et là, on vise principalement les secteurs qui sont visés, c'est les secteurs de l'emploi, comme l'a dit Maître Manessa tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses très anormales dans ces secteurs d'emploi. Il y a vraiment un tribalisme, une xénophobie à outrance. Nous avons aussi la politique, l'accès à la politique. Dans les cabinets politiques que vous avez, vous savez que ce sont les tribus qui y sont. C'est pas la nation qui est représentée dans les différents cabinets politiques. Ce sont les tribus qui y sont pour l'honneur de la tribu et non pas pour l'intérêt de la nation. Il y a plusieurs autres activités économiques, sociales, culturelles, scolaires et académiques également sont visées par cette loi. Et dans la loi, nous prenons aussi l'interdiction de fonctionnement des associations à caractère tribal. Donc, mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas que soient créées les associations à caractère tribal. Nous disons que les associations à caractère tribal doivent se limiter dans la sphère privée.
Et les associations du genre, les ressortissants de Bagata qui soutiennent l'honorable Gary Sakata.
Et là, ça ne va pas. Vous pouvez avoir une association des ressortissants de Bagata tout court pour voir quels sont les problèmes de développement qui se posent dans les territoires de Bagata entre vous, parce que l'initiative du développement peut également venir du privé. Mais une fois une personne de Bagata devenue autorité, les gens de cette association ne peuvent pas considérer que le cabinet leur appartient. C'est ce que nous constatons actuellement sur plusieurs fronts. Donc, c'est ce que ça, nous considérons ça comme étant une infraction de la transposition des associations à caractère tribal au niveau politique ou au niveau public. Et nous avons prévu, il y a la création, comme l'a répété Maître Manessa tout à l'heure, il y a la création d'un organisme spécialisé de l'action contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Ça, c'est un organe très très important qui va assurer la veille de tous les actes de tribalisme qui sont commis. Donc, ils vont assurer vraiment une très grande veille par rapport à tous les actes. Ils vont faire la comptabilité de tous les actes de tribalisme qui vont être commis et même proposer des sanctions. Selon ce que moi je prévois, cet organe ne va pas relever du gouvernement parce que, contrairement à ce que les gens croient, le premier acteur du tribalisme, de la xénophobie, c'est parfois le gouvernement lui-même. Donc, c'est pour ça que moi je pense que tel organisme doit être sous l'autorité du Parlement et non pas sous l'autorité de l'exécutif. Donc nous prévoyons des sanctions, très très importantes, donc des peines d'emprisonnement qui sont très très importantes. Voilà un peu ramassé de manière très brève le résumé. Mais dans la loi et par la création de l'organisme auquel je viens de faire allusion, nous privilégions les aspects de prévention, donc l'éducation. Nous privilégions l'éducation. La prévention passe avant la sanction. Ça, nous insistons beaucoup sur ça. Pour qu'il y ait beaucoup d'impact, il faudrait d'abord prévenir, ça veut dire éduquer la population, leur montrer que tel fait n'est pas bien, appeler quelqu'un taliban, c'est déjà le stigmatiser, appeler quelqu'un, je sais pas l'autre appelle quoi, Pakistan ou je sais pas quoi, c'est déjà le stigmatiser, considérer des personnes de père et de mère ou de grand-père et de grand-mère, ça c'est déjà aussi un acte de xénophobie, c'est une stigmatisation fondée sur la peau ou fondée sur le faciès. Ça aussi, en réalité, la loi ne partage pas ce point de vue.
Bien, à quel niveau se trouve aujourd'hui cette proposition de loi, honorable?
Alors, cette proposition de loi se trouve être au niveau du bureau de l'Assemblée. Au niveau du bureau de l'Assemblée. Et nous attendons qu'elle soit... Ça fait longtemps, c'est depuis le mois de septembre 2020 que cette proposition de loi a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais passée en plénière. C'est quand même étonnant, alors que, comme vous le savez, le chef de l'État en parle plusieurs fois. Et nous ne comprenons pas pourquoi elle n'est pas encore passée en plénière.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle passe en plénière?
Il faudrait que le bureau de l'Assemblée mette ça en plénière comme on met toutes les autres lois. Nous voyons des lois qui sont certes importantes, mais qui ne pouvaient pas avoir la même ampleur. Et le besoin de l'unité de la cohésion nationale être mise en plénière. Mais nous sommes encore surpris du fait que le bureau ne mette pas encore en plénière, ne fasse pas encore passer en plénière une loi aussi importante pour l'unité nationale, pour la cohésion nationale. Les présidents de l'Assemblée, dans ses discours, et les présidents du Sénat ont plusieurs fois parlé de l'unité de la cohésion nationale. Ils ont l'expérience de ce qui s'est passé dans les années 60, 64, où, à cause des actes de tribalisme, différents peuples n'ont même pas pu traverser, leur village pour aller même dans leur forêt. Et maintenant, nous pouvons avoir un instrument qui puisse permettre de mettre fin à ces chaos futurs. Mais nous attendons avec espoir que cela sera mis au programme.
Bien, quelle est l'opportunité de l'adoption d'une loi contre les tribalismes, le racisme et la xénophobie? Le sujet vous intéresse, mesdames et messieurs, n'attendez pas les dernières minutes, composez les 081-890-63-94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Quelle est l'opportunité? Quelle est l'opportunité de l'adoption d'une loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie? On en parle aujourd'hui dans Capi Service. On va accueillir un auditeur. Maître Gaston, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Jody.
Quelle est votre question, Maître Gaston?
Bon, moi je pense qu'on est raciste. Le fait qu'on appartient à une race, on est tribaliste, tout ce qu'on peut dire, xénophobe même. Mais dans le bon sens, c'est aussi, bon, à mon avis. Mais il peut arriver qu'on utilise mal ces positionnements-là, Mais vous n'ignorez pas que tous ces aspects que nous faisons à l'Union aujourd'hui existent avec nous. on est lié à sa famille. Pour les intérêts de sa famille, on peut sacrifier d'autres intérêts. On est lié à sa province, on est lié à sa tribu, on est lié à son état, on est lié à son continent, on est lié à ce sujet-là. C'est ce qui habite en nous. Mais il ne faut pas ignorer, c'est là-bas, c'est l'ethnie, c'est la tribu.
Quelle est la question que vous adressez aux invités?
Pas aux invités en soi. Moi, je voulais un peu demander à l'auteur de la loi.
À l'honorable Gary Sakata.
Oui.
Quel est la...
Obey Minago, à l'époque. Moi, je sais pas. Je voulais un peu avoir une idée par rapport à ces aspects ici. Moi, je pense qu'il y a des lois qui condamnent déjà, qui érigent en infraction ces aspects ici dans le mauvais sens. Par exemple, je sais pas hein, s'il y a des lois, mais moi, je pense que le tribalisme dans le mauvais sens, on n'en prend pas le même il y a un aspect là lié à, au-delà du tribalisme. Donc, il y a des gens aujourd'hui, là, c'est népotisme, je vois. Lorsqu'ils sont au pouvoir, ils emploient ceux qui sont les leurs. Lorsqu'on t'accorde un poste, vous êtes entouré des vôtres. Et tu vois un peu, l'administration marche dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le problème du système ou des lois? Parce qu'à mon avis, les lois interdisent déjà, même au niveau régional, au niveau de l'Afrique, au niveau international, l'ONU, on interdit ces aspects ici. Mais peut-être que ce n'est pas important que les lois que nous avons soient appliquées. Hein, parce qu'en réalité, il n'y a pas de question d'à tout moment voter une loi parce qu'on a voté. Là-bas, et ça passe, non. Moi, je pense que le racisme, c'est un aspect qui existe sociologiquement, tribalisme. Mais sur les plans infractionnels qu'on a érigé ces aspects ici, c'est déjà prévu dans des lois et qu'on applique seulement si possible ces lois-là. Au lieu de nous parler des... Non, il peut un peu nous expliquer l'innovation hein, qu'il veut apporter par rapport à ce que j'ai dit là, par rapport à sa proposition, leur proposition avec Bemina.
Bien, merci. Maître Gloire Manessa, qu'est-ce que vous pouvez dire à Maître Gaston?
Je te loue pour Bemina.
Maître Gloire, vous êtes là? Il n'est plus là. Honorable Gary Sakata, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Maître Gaston?
Bon, moi, je n'ai pas bien. Enfin, mais la loi ici, ce n'est pas la loi avec un autre député, vous savez. Mmh. C'est la loi portant. C'est la loi contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. Comme on l'a déjà dit ici, d'un point de vue juridique. La loi existante date successivement parce qu'il y a trois ordonnances et une ordonnance, deux ordonnances plus une ordonnance datant de 1960 où l'on disait que les noirs entrent par telle porte du magasin, les blancs par telle autre. Et il y a la loi, il y a l'ordonnance loi que le président Mobutu avait promulguée en 1966 qui est plus une loi répressive qui prévoit que des sanctions. Alors, et puis ces sanctions aujourd'hui sont démodées en fait, ne peuvent plus être dissuasives. Alors c'est pour ça que nous, dans la proposition de loi, si vous demandez quelles sont les innovations sont notamment le fait que nous créons un organisme de suivi et de contrôle des actes de xénophobie et de racisme. C'est ça, ça sera un organe permanent. Qui va, comme dans le domaine de la presse ou dans tel autre domaine, ça va faire le suivi de tous les actes qui sont posés sur l'étendue du pays contre les actes de racisme et de xénophobie. Et le tribalisme également. Mais également, la proposition confère à cet organisme le pouvoir de saisir directement le juge. Donc le grand travail qu'il y aura à faire, ça sera également au niveau du juge. Lorsque la prévention aura terminé. Alors ça, c'est un aspect important. L'autre aspect, c'est l'aspect prévention en général. Donc ici, nous préférons prévenir, donc réduire dans la société les actes de tribalisme et les actes de xénophobie avant d'arriver à la sanction. Nous voulons également réguler la composition, le comportement des politiques. Notamment, nous disons que dans un cabinet d'avocats, on ne peut pas, dans un cabinet plutôt de politique, des ministres ou je ne sais pas, des gouverneurs, on ne peut pas avoir, si nous sommes au niveau national, à supposer qu'il y ait 20 ministres, nous ne pouvons pas avoir plus de 10 ministres ressortissants d'une même province, parce que nous sommes quand même au niveau de la nation et que l'on considère qu'il y a des personnes compétentes dans tous les pays, dans toutes les provinces. Si nous sommes au niveau de la région, au niveau de la province, nous disons que le bureau du gouverneur ne peut pas comporter, s'il y a 20 membres, ne peut pas comporter plus de 10 membres qui appartiennent à un même territoire. Et ainsi de suite, l'on descend. Voilà un peu de manière... Il y a plusieurs innovations, mais là, c'est de manière un peu ramassée, ce que l'on peut dire, les innovations contenues dans cette loi. Et surtout, ce qui peut intéresser également le peuple, c'est le fait que l'accès à la profession, même publique, est actuellement... ce sont des réseaux à caractère tribal qui vous font donner de l'emploi actuellement. Et nous devons quand même réguler cela. Et puis, tous ces enfants de pauvres, tous ces enfants de paysans qui n'ont ni père ni mère, qui occupent des fonctions dans l'appareil de l'État, ils vont faire comment? C'est ça la difficulté. Nous devons, cette proposition de loi tente de réguler un peu tout ça.
Quelle est la sanction réservée à tout politicien qui a mal de positionnement, qui tient des discours haineux, tout ça, qui exalte le tribalisme et qui pousse parfois les gens à la violence?
Alors nous avons prévu, nous n'avons pas voulu laisser des sanctions uniquement sanctions politiques ou administratives. Nous sommes allés dans la sanction pénale, parce que si l'on dit qu'on doit les démettre, bon, celui qui n'en peut ou ne peut pas démettre, encore que si c'était par voie d'élection, là nous prévoyons des sanctions allant de 2 à 5 ans d'emprisonnement.
Bien, on va accueillir Pierrot de Lubumbashi, bonjour.
Je dis bonjour à tous les auteurs de la radio Capi et à l'honorable Gary Sakata. C'est Pierrot Pagnon, oui.
Quelle est votre question rapidement, Pierrot?
Oui, je voulais dire d'abord que c'est une bonne proposition des lois, du fait que nous vivons, étant des autres provinces, ressortissants des autres provinces, nous vivons ce genre de pratiques ici à Lubumbashi, dans les Grands Katanga en particulier. Mais lorsque vous entendez dire que on est en train de choisir des tribus, mais comment il a aussi fait quelque chose pour garantir, lorsque nous déposons, on vous demande le document pour aller déposer afin de chercher un emploi. Mais pourquoi on ne peut pas aussi enlever les phrases du genre province d'origine, territoire d'origine? Parce que c'est ce qui nous expose encore de plus. Comme nous avons vu sur les cartes des électeurs que nous venons de prendre, on a caché ces trucs-là. Ça, c'était une première question. La deuxième question était de savoir, lorsque dans ce pays, il y a déjà des lois qui existent, mais nous souffrons de l'application de ces lois-là. Moi, j'ai suivi personnellement, écoutez, dans chaque sortie médiatique d'un honorable de Kinshasa, je peux citer les noms, mais ça, c'est pas normal.
Bon, n'incitez pas les noms. Qu'est-ce que cet honorable dit souvent?
Dans une émission télé politique, il nous demande à un membre, communicateur de l'IDPS, Maître Basile Longo, on lui demande que toi, tu es Mukuya, aux villageois, mais qui n'ont pas de l'autre côté. C'est-à-dire, lorsque un député parle de ça, cette émission-là est très virale sur les réseaux sociaux. Vous sentez quelqu'un, un honorable député, qui vous dit que lorsque vous venez chez autrui, respectez les us et coutumes, on ne mange pas le chien. Chez nous, on ne touche même pas les poissons. Mais demain, vous voyez quelqu'un de cette tribu-là avec le poisson. Est-ce que vous sentez que ce sont des propos qui tiennent debout? C'est ce que nous disons. Ça doit commencer. Ils doivent commencer d'abord à prêcher ceux-là qui sont les honorables. Parce que c'est eux qui parlent plus politique dans les assemblées. Je vous remercie.
Merci. Maître Gloire Manessa, votre réaction par rapport à ce que vient de dire Pierrot?
Oui, merci beaucoup. Je salue Monsieur Pierrot. Il a effectivement raison à ce qu'il évoque, mais par rapport à la réponse, je veux lui donner des cas, des exemples à partir d'un article de la Constitution et de ce que cette proposition de loi propose, pour voir à quelle mesure cette proposition de loi est plus importante. La Constitution du 18 février, à son article 36, dit de façon générale que nul ne peut être discriminé dans l'accès à l'emploi par rapport à son, à sa religion, à son appartenance ethnique, tribale ou consort. La Constitution énonce ça de façon liminaire. Mais plus précisément, cette proposition de loi de l'honorable Gary Sakata vient interdire, vient dire spécifiquement que pour accéder, si vous êtes nommé à tel poste, vous ne pouvez pas avoir plus d'autant de personnes qui sont de votre tribu. Vous comprenez que la Constitution a donné une règle générale, comme la vocation de donner des règles charnières comme ça, mais cette proposition de loi vient spécifier, vient plus sécuriser notre frère qui se retrouve dans une position où, avant d'aller donner son CV, on vérifie dans son, on lui demande d'inscrire plutôt dans son CV son appartenance ethnique. Une autre avancée que cette proposition de loi vient consacrer, je pense que l'honorable Sakata l'a dit ici, c'est l'institution de la culturalité comme mode de vie dans la société. La culturalité signifie que comment on cultiver sa manière de voir l'autre, ne pas considérer l'autre comme un mangeur de chien, comme il dit, l'autre comme un Pakistanais, l'autre comme un Luba, comme un Mukongo, comme un Mungala, mais de le voir comme un humain, comme un semblable. Cette culturalité-là, et comme cette proposition de loi a une vocation d'abord préventive, elle commence par sensibiliser dans la communauté que les institutions du pays pour privilégier l'harmonie et le pouvoir vivre collectif dans un État démocratique et un État qui devient une nation, elle passe aussi à la phase supérieure pour prévenir, par exemple, en imposant, comme je l'ai dit tantôt, aux mandataires publics ou à ceux qui ont des charges dans la société, de ne pas employer la tribu dans leur cabinet, mais plutôt d'employer les citoyens, les Congolais, les pris de façon globale. Ah donc, c'est une loi qui est importante. Les problèmes, ils sont nombreux. Notre ami qui est à l'Opéro parle de ce qu'il vit, peut-être, ou de ce qu'il est victime par rapport à ça qu'il tue. Mais il y en a aussi à l'Est, par exemple, à Ouvira, dans les hauts plateaux de Minembwe là-bas, qui sont aussi victimes de ça par rapport à leur faciès. Ici, à Kinshasa, il y en a qui sont aussi victimes par rapport à leurs opinions politiques.
Maître Gloire.
Société,
oui.
C'est dans tous les domaines de la société que nous vivons maintenant ce fait qui est en train de s'allumer. Et cette proposition de loi tombe à point nommé. Je vais conclure.
Maître Gloire, par exemple, il y a des propos du genre Soke Omoni Muluba Nanyoka, Boma Muluba Tika Nyoka, Omoni Rwandais Nanyoka, Boma Rwandais Tika. Donc tu te retrouves devant un Rwandais et un serpent, il faut tuer le Rwandais ou le Muluba et laisser les serpents. C'est des propos qu'on entend souvent parmi la population, dans la population.
Oui, ce sont des propos incendiaires qui viennent, qui sont fondés sur des stéréotypes basés par des considérations souvent mensongères et erronées, qui sont fabriqués par des laboratoires de certains leaders qui peuvent être politiques ou leaders d'opinion qui veulent s'attirer un avantage politique direct. Mais quand ils versent ça dans la population, ça incite à la violence, ça incite au crime et les populations en pâtissent. Effectivement, notre pays est en train de traverser un moment très très difficile. Nous sommes en train de voir le mal venir des loin. On incrimine les voisins, les Rwandais ou les Occidentaux au sort. Mais c'est nous-mêmes à l'éternel qui massacrons, qui tuons notre pays. Lorsque nous tombons dans ces pièges de la tribalisation, de la discrimination, de la xénophobie, nous sommes allés dans un stade plus évolué même aujourd'hui. Le prof a dit que la xénophobie ne considérait pas seulement les étrangers, oui, mais aujourd'hui vous sentez qu'il y a une certaine autre forme, une forme de xénophobie qui attaque même les partenaires internationaux du pays. Nous avons les organisations internationales et régionales qui œuvrent logiquement au Congo. Notre pays ne peut pas vivre en vase clos avec cette mondialisation actuelle. Mm-hmm. Mais vous allez sentir un leader politique, un acteur institutionnel clé qui connaît bien comment fonctionne le système des Nations Unies, comment fonctionnent les relations entre les États et les organisations internationales. Mais lorsqu'il est devant le peuple face à un meeting politique, il sort des propos incendiaires. Qui ne sont fondés que sur le populisme et le mensonge. Et ces propos-là ont soulevé dans notre pays aujourd'hui, il y a une haine contre la MONUSCO, il y a une haine contre les organismes régionaux qui sont ici et certaines missions diplomatiques pour des questions qui sont au contraire réglées ordinairement et techniquement au niveau diplomatique.
Merci. Donc, Maître Gloire. Un instant, on va accueillir l'honorable Dédé Moupassa depuis Kinshasa. Honorable, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de la loi, de la proposition des lois contre les tribalismes, la xénophobie et le racisme. Quelle est l'opportunité d'avoir une telle loi aujourd'hui?
Oui, je pense que, d'abord, je remercie vous-même, souvent l'initiative d'approcher l'honorable Sakata, qui je félicite en passant aussi, celui avec qui je ne cesse de discuter sur cette loi depuis le début. Mais je regrette que le bureau n'ait pas programmé jusque maintenant. Je donne ma foi, en fait, à contribuer à ce lobbying pour que le plus vite ça puisse se faire. Mais là, si j'ai pris la parole tout à l'heure, c'est parce que je suis les uns les autres. Je vois comme si on va revenir, nous sommes des gens qui font la promotion de nos langues, de nos dialectes et de nos milieux ruraux. Dans nos milieux ruraux, je veux dire. Alors, maintenant, chaque fois qu'on parle du tribalisme, ça va directement à l'opposition de banaliser et de mettre à côté la valeur que représente la tribu. Alors, je préfère qu'à chaque fois qu'on parlera du tribalisme, qu'on donne la valeur à la tribu et à ses langues ou à ses dialectes ou à tout ce que la tribu dégage comme valeur culturelle, socio-culturelle et spatiale. Parce que dans chaque tribu, il y a un espace. Et cet espace a besoin d'être aménagé, gouverné, et qu'il faut une attention à cela. Et ces espaces sont généralement dans les milieux ruraux. Donc, quand on parle de tribalisme, ça vient jouer un rôle dans les milieux urbains qui met en opposition les milieux ruraux. Donc, c'est un élément très important. On reviendra dans nos débats, peut-être au Parlement. Moi, j'en ai encore cette mobilité, mais parce qu'il a amené ça à la place publique autre que le Parlement, que je voulais intervenir pour créer l'attention à cela. Parce que chaque fois que nous autres, nous pouvons faire la promotion de notre tribus, la promotion des valeurs qui est contenue dans notre vie et tout, on risque d'être considéré comme des tribalistes. Parce que c'est pas ça le tribalisme. Je pense qu'il a très bien défini et je voulais tirer l'attention parce que du début, jusque-là, j'ai pas entendu des gens tirer de ces côtés-là. Voilà, merci.
Merci, honorable Dédé Moupassa. Honorable Gary Sakata, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup. J'appuie ce que l'honorable Dédé Moupassa a dit. Effectivement, comme on l'a dit, le tribalisme, selon la proposition de loi, est un vice, mais nous ne considérons pas la tribalité ou la culturalité comme étant un vice. Donc, les associations culturelles doivent demeurer. Vous êtes dans une association culturelle, comme lui, le président d'une association culturelle qu'on appelle Banama, ou d'autres associations culturelles, Yako et tant d'autres. Nous n'allons pas considérer que ces associations-là font la promotion du tribalisme, non. Et je pense qu'il a raison, effectivement, dans le débat, il faudrait relever cet aspect de la culturalité qui permet de faire la promotion de nos cultures, de continuer à faire la promotion de nos cultures, parce que sans culture, nous mourrons. Sans culture, nous adoptons les cultures des autres. Mais par conséquent, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous êtes dans une association Banama, association Yako, et que vous, en tant que membre de cette association, vous devenez une autorité publique, ce n'est plus le moment de transposer les valeurs de la Yako ou de Banama dans cette fonction publique. Vous devez vous comporter en état en considérant que même les non-membres ont droit au chapitre. Mais les cultures doivent être valorisées. Ça, je conviens totalement avec l'honorable Moupassa Dédé que chaque fois qu'on parle du tribalisme, il faudrait que cet aspect puisse ressortir pour ne pas donner l'impression que nous avons cassé tous ceux qui ont des associations à caractère culturel. Alors, un autre élément important que la proposition de loi est en train de promouvoir, c'est que dans l'idée fondamentale, dans la philosophie fondamentale, c'est de considérer que les Congolais appartiennent non pas à telle ou telle tribu, mais ils appartiennent à la collectivité nationale. C'est ça l'élément philosophique profond qui découle de cette proposition de loi que nous sommes en train de mener.
Honorable Gary, il y a un auditeur de Lubumbashi qui nous a dit pourquoi dans les cartes d'identité on doit mentionner territoire d'origine, village, etc. C'est ça qui renforce aussi, d'après lui, qui peut renforcer le tribalisme. Vous allez chercher un emploi quelque part. On regarde votre identité directement, on sait vous catégoriser et puis vous dire non, vous n'avez pas votre place ici.
Alors, voilà, à cette question, je réponds plutôt par une autre forme de question. C'est pour ça que dans les infractions prévues, et dans les infractions prévues dans la proposition de loi, nous mettons la charge de la preuve sur l'employeur. Ça veut dire que vous accusez un employeur d'avoir d'avoir commis un acte de xénophobie, de tribalisme à votre endroit parce qu'il ne vous a pas engagé. Ce n'est pas à vous de donner la preuve, mais c'est à l'employeur de donner la preuve qu'il n'a pas fait du tribalisme ou qu'il n'a pas fait la xénophobie. Bon, vous savez que le fait de reprendre la province ou le truc, en réalité, n'est pas en réalité une bonne chose. Dans le contexte actuel de notre pays, avec autant de pays voisins, et nous devons agir par palier et par processus. Donc voilà un peu. Mais l'essentiel pour résoudre ce problème, c'est que la charge de la preuve de la proposition de loi incombe à l'employeur et non pas à la personne qui a été victime.
Bien, nous avons la réaction d'un auditeur. Il est Désiré Campache depuis le Lualaba. Je suis victime pour avoir adhéré à l'UDPS et avoir défendu le régime de Félix. Bon, voilà. À cause de cela, il est victime de quoi? Je ne sais pas. Bon, peut-être du tribalisme. Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi. Honorable Gary, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
J'ai pas bien compris sa préoccupation. En fait, il dit quoi?
Il dit qu'il est victime de quoi, il ne l'a pas dit, pour avoir adhéré à un parti politique et avoir défendu le régime de Félix Tshisekedi. Voilà, il est Lualabé.
Ah, ok, mais je considère effectivement que ça rentre dans le cadre de ce que la loi réprime. Ce sont des actes de xénophobie, des actes de haine, des propos haineux certainement à son endroit par rapport à sa communauté qui peut-être soutiendrait un autre leader. C'est ça que la loi tente de considérer comme étant infractionnel. Et si la proposition évolue comme d'autres le sont, je pense que ce genre de situations ne vont certainement pas disparaître, mais ça va quand même diminuer parce que l'épée de Damoclès pèsera sur tous les acteurs qui se seraient mis à l'entrave de la loi.
Honorable Gary, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette loi soit programmée au niveau de la plénière?
Alors, comme je l'ai dit, le président de la République, dans plusieurs de ses discours depuis 2 ans, est en train d'appeler la population et les autorités exécutives à éviter les actes de tribalisme et de xénophobie. Le pouvoir exécutif également. Maintenant, ce que je sollicite du bureau de l'Assemblée, c'est de mettre en œuvre la parole du chef de l'État, c'est mettre en œuvre la vision du chef de l'État, c'est de mettre en œuvre les discours du chef de l'État qui veut mettre fin aux actes de tribalisme, aux actes de xénophobie, mais l'instrument légal existant est faible. Donc, j'en appelle donc au bureau de l'Assemblée qui a reçu ces documents depuis bientôt 3 ans, parce que c'est septembre 2020, à pouvoir faire passer le document en plénière. Il n'y a rien de répréhensible contre l'intérêt de la nation dans cette proposition de loi. Nous devons plutôt conformer notre politique, nos propos à ce que nous faisons, à la politique que nous sommes en train de mener. Donc j'en appelle donc au bureau de l'Assemblée de pouvoir mettre cette proposition de loi, c'est déjà au calendrier, de pouvoir faire passer cela à la plénière pour que les choses puissent évoluer. Il en va de l'intérêt de tout le monde. Mais il y a quand même il y a des petites craintes, ça et là, de certaines tribus comme d'autres, mais tout ça, ce sont des préjugés. La proposition de loi a été élaborée in illo tempore non suspecto, donc à une période où le phénomène tribal était là. Mais j'avais quand même essayé de prendre un peu de l'avance. C'est pas tellement de l'avance parce que ça existait déjà. Bon, actuellement, c'est un peu exacerbé. Nous approchons également des élections. Ça sera encore plus grave. Alors, il faudrait quand même un arbitre. Et cet arbitre, c'est la loi, qui sera mise à la disposition du pouvoir judiciaire pour pouvoir sanctionner ceux qui se mettront à l'entrave.
Bien, Maître Gloire Manessa, vous êtes coordonnateur de l'action citoyenne des luttes contre les discours de haine. Au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous comptez faire pour que cette loi puisse passer, être adoptée?
Oui, merci beaucoup. Nous, au niveau de la société civile, nous suivons de près l'évolution de cette proposition de loi. Elle a été déposée depuis 2020, mais elle peine d'alignement. Et les jeunes, il y a le 20 avril passé, 20 jeunes des organisations fêtières et la jeunesse de Kinshasa réunis à l'initiative de l'action citoyenne de lutte contre le discours de haine avaient réfléchi avec quelques honorables de Kinshasa autour notamment de cette loi. L'honorable Sakata a été aussi invité, mais il était indisponible. Mais à partir du 18, nous allons encore réfléchir avec 30 jeunes dans les 4 districts de la ville, province de Kinshasa, autour de l'action amenée par les organisations fêtières de la jeunesse, les conseils provinciaux et le conseil communal de la jeunesse, et d'autres structures de la société civile ici à Kinshasa, pour mener un plaidoyer au niveau de la jeunesse afin que cette proposition de loi puisse être adoptée. C'est une proposition de loi qui est très importante, qui est même la loi, qui est une initiative parlementaire la plus importante de la législature, si nous pouvons la dire comme ça. Parce que non seulement elle vient sécuriser, prévenir ou renforcer la cohésion sociale et la cohésion nationale des pays, mais elle vient aussi mettre tous les citoyens dans la facilité d'avoir accès à la justice lorsqu'ils sont victimes des discours de haine. Donc nous, comme société civile, nous comme acteurs jeunes qui incitons, qui encourageons la population à se ranger contre les discours de haine et contre la discrimination, nous soutenons vraiment cette proposition de loi et nous appelons l'Assemblée nationale, nous appelons les bureaux de l'Assemblée nationale à aligner cette proposition de loi et nous allons, dans les jours qui viennent, voir, chercher à rencontrer les autorités politiques du pays, même aussi les acteurs institutionnels, les autorités gouvernementales, pour voir dans quelle mesure cette proposition de loi ne peut pas passer cette législature qui est presque en train d'aller vers la fin sans être promulguée. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Le tribalisme est en train de monter d'un cas. Le tribalisme, là encore, j'ai dit, l'honorable Dédé l'a dit, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est lorsqu'elle prend des allures discriminatoires, lorsqu'elle va au point, elle va vers des velléités qui entravent la cohésion, qui menacent la cohésion et la paix sociale, que le tribalisme devienne nocif à la vie communautaire. Nous allons continuer à le combattre et dans le cadre de cette proposition de loi, nous soutenons cette proposition de loi et nous allons faire ce qui va être notre pouvoir comme citoyens dans le cadre de l'exercice du contrôle citoyen de la redevabilité afin que cette proposition de loi soit débattue, votée au niveau, adoptée au niveau des chambres du Parlement et promulguée au niveau à la présidence de la République. Ce serait une victoire de la démocratie et de l'état des droits dans notre pays.
Bien. Maître Gloire Manessa, coordonnateur de l'action citoyenne des luttes contre les discours des haines, nous vous disons merci d'avoir accepté de participer à cette émission. On va terminer avec vous aussi, l'honorable Gary Sakata, député national élu de Bagata et auteur de la proposition de loi contre le racisme, le tribalisme et la xénophobie en RDC. Alors, un dernier mot rapidement, honorable, avant de clôturer.
Oui, merci beaucoup. Cet entretien. J'appelle les citoyens à nous aimer vivants, comme eux-mêmes aiment le répéter. J'appelle également les citoyens à considérer que cette proposition de loi milite en faveur de l'unité et de la cohésion nationale qui est en danger. Et j'appelle les autorités ou le bureau de l'Assemblée nationale de mettre cette proposition de loi en plénière pour que ce vœu soit réalisé et que la cohésion et l'unité nationale soient maintenues par cette proposition de loi, comme l'ont si bien dit les autres collègues.
Merci, honorable Gary Sakata. À la prochaine.
Au revoir.